Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Mali, suite à sa réélection pour un nouveau mandat de 5 ans, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, a placé son deuxième quinquennat sous le signe de la jeunesse. Et il a appelé ses compatriotes à l'unité et à la cohésion nationale. Dans sa première déclaration après la confirmation de sa victoire, le chef de l'État a affirmé lundi tendre la main à son jeune frère Soumaïla Cissé, le candidat de l'opposition à la présidentielle, car le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils, a souligné le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État a été crédité de 67,16% des voix contre 32,84% pour Soumaïla Cissé au second tour de la présidentielle le 12 août dernier. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
C'est dans un chapiteau rempli de ses partisans qu'Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé au peuple malien. Ibeka s'interroge sur le faible taux de participation.
Le niveau de participation à cette élection, qui aurait pu être meilleur, nous interpelle tous. Il doit amener, de notre part, acteurs politiques et sociétés civiles, à une réflexion profonde sur l'évolution de nos institutions et de nos pratiques. Tous, chacun en ce qui le concerne, est interpellé. Gravement, cette réflexion devra être conduite de manière large et inclusive. J'en serai le garant.
Le président sortant qui succède à lui-même avant son investiture le 4 septembre prochain tend sa main à tous les enfants du pays.
À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, je voudrais tendre la main. Oui, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. La République, sous ma conduite, n'exclura personne.
Ibeka place son deuxième quinquennat sous le signe de la jeunesse et le développement du Mali.
J'ai pris l'engagement de faire de mon prochain mandat, souvent le 4 septembre, le mandat de la jeunesse. Je sais ce que ce pays vouloir. Je consacrerai le principal de notre effort à votre épanouissement, Inch'Allah.
Lors de cette intervention, il a remercié tout le peuple malien pour sa participation à la présidentielle de 2018. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, le Ghana est en deuil depuis lundi. Une semaine de deuil national en hommage à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, qui s'est éteint à Genève le 18 août. Éric Manirakiza s'est entretenu hier dans notre programme interactif à votre avis avec l'un des amis personnels du disparu, un camarade de classe et collègue, l'ancien ministre ivoirien des Affaires étrangères Amara Essi.
Monsieur Kofi Annan, on s'est connu à Genève, à l'Institut de haute études internationales. On s'est fréquenté et je crois que ce que je retiens de lui, c'est que vraiment il est fidèle en amitié. Je crois qu'on a toujours déjeuné avec lui en privé à New York et vraiment c'est quelqu'un qui est très ouvert. C'est quelqu'un qui a un attachement sans borne pour son continent d'Afrique. Et quand j'ai été élu secrétaire général de l'OUA et avant de mettre en place les structures, je suis allé le voir pour dire, écoute Kofi, j'ai une tâche, mais ce n'est pas ma tâche. C'est la tâche de tous les Africains qui ont une expérience des relations internationales comme toi. Et je voudrais qu'ensemble, on réfléchisse comment on va transférer l'OUA en Union africaine, capable de rivaliser avec toutes les grandes institutions internationales. Donc c'est ainsi que bon, on a eu à collaborer pour que naisse l'Union africaine. En tout cas, il a beaucoup contribué à cette réflexion et surtout le résultat est là aujourd'hui. Nous avons une institution qui est capable aujourd'hui de figurer en bonne place dans le combat international.
C'est quelqu'un qui a eu une carrière exceptionnelle.
Oui, parce que vous savez, ce que on ne dit pas assez, c'est que bon, il avait quitté le Ghana à la suite du coup d'État au Ghana qui avait renversé Nkrumah et donc c'est quelqu'un qui avait une fibre politique. Mais je crois qu'il a été beaucoup traumatisé par la chute de Nkrumah et donc il est parti donc en Europe. Bon, il a fait beaucoup d'études un peu partout, comme vous savez. Il a été aux États-Unis, ensuite il a été à Genève. Donc en fin de compte, il a une approche pluridisciplinaire de toutes les questions qu'il traite et donc vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Comment Kofi Annan devient secrétaire général des Nations Unies? Ses ambitions, est-ce qu'il vous en avait parlé avant?
J'étais président de l'Assemblée générale, la 41e session de l'Assemblée générale. Mais disons qu'on faisait des analyses souvent, puisque moi j'étais d'abord ambassadeur, lui était au secrétariat, et donc on faisait des analyses sur la marche des Nations Unies. Moi, vu du côté des ambassadeurs, lui, vu du côté du personnel des Nations Unies. Donc, c'était un débat disons, d'informations réciproques. Moi, ça me servait, lui, ça lui servait aussi. Donc, en fin de compte, je crois qu'on était complémentaires dans les analyses qu'on faisait. Chacun savait à peu près, dans son groupe, quel était le problème et comment on pouvait harmoniser nos points de vue. Parce que quand ils avaient des réformes quelquefois très difficiles, bon, ils me les envoyaient pour que je les passe, passer par une résolution, en concertation avec les Africains, parce que quelquefois, on s'est dit, bon, c'est un Africain, il faut l'aider absolument, parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'Afrique. Et il était très attaché à l'Afrique. Et un aspect que les gens ne voient pas, c'est que quand il était secrétaire général, il avait un souci préoccupant, c'était le continent africain. Il était meurtri quand il y a eu l'affaire du Rwanda. Parce qu'en tant qu'Africain, en fait, son ambition, c'est que vraiment, en tant que secrétaire général, que vraiment l'Afrique n'ait pas de problème. Mais ce n'était pas aussi aisé. Mais c'est quelqu'un qui a été vraiment frustré et traumatisé parce qu'il voyait des solutions et il ne pouvait pas avoir des résolutions du Conseil de sécurité. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu les deux Africains, Boutros Ghali et Kofi Annan. J'ai vu les problèmes qui ont été créés avec Boutros Ghali par son tempérament, par son caractère. Mais je crois que les Nations Unies n'ont jamais connu une période aussi difficile à gérer qu'avec Boutros Ghali. C'était le pharaon, comme on l'appelait le pharaon. À son départ, Kofi a dû remettre tout en ordre et ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de frustration, surtout du côté des Américains qui étaient quand même le premier bailleur des Nations Unies.
Amara Essi, un camarade de classe, un collègue du disparu Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Il parlait à Abidjan, Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, la Russie a signé ce mardi un accord renforçant ses liens militaires avec la République centrafricaine, mis en lumière récemment par l'assassinat de 3 journalistes russes enquêtant sur la présence de mercenaires russes en RCA, pays à qui Moscou fournit des armes et des instructeurs militaires. Cet accord dont les détails n'ont pas été publiés va contribuer à renforcer les liens entre Moscou et Bangui dans le domaine de la défense. C'est ce qu'a souligné le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, cité par les agences russes après la signature d'un accord intergouvernemental avec son homologue centrafricaine Marie-Noëlle Koyara. Le ministre russe était à l'inauguration du forum militaire à Koubinka dans la région de Moscou. RCA toujours, la République centrafricaine est le 3e pays le plus dangereux du monde pour les opérations humanitaires. Cette déclaration de la coordonnatrice humanitaire Najat Rojdi a été faite dimanche à l'occasion de la célébration RCA de la Journée internationale de l'aide humanitaire. De Bangui, plus de détails avec la correspondante de, le correspondant de VOA Afrique, Freeman Sipila.
Selon la coordination des affaires humanitaires, uniquement pour cette première partie de 2018, 6 acteurs humanitaires ont été tués alors qu'ils apportaient de l'assistance aux personnes en détresse. 205 incidents ont directement affecté les humanitaires, soit un incident par jour. Najat Rochdi, coordonnatrice humanitaire en Centrafrique, hausse le ton.
Je veux exprimer ma colère, je veux exprimer mon indignation, je veux condamner fermement ces actes abjects, ces actes lâche, car rien, absolument rien, ne justifie de tuer celui ou celle qui sauve une vie, de tuer celui qui amène la nourriture, de tuer celui ou celle qui soigne. Je condamne, je condamne, je condamne. Stop. Les humanitaires ne sont pas des cibles.
Le gouvernement centrafricain, conscient de la situation que traversent les humanitaires, salue leur courage et leur détermination, appelant les groupes armés à s'abstenir de toute attaque contre ces travailleurs sociaux. Entre 2014 et 2018, au total 29 humanitaires ont déjà perdu leur vie en apportant de l'aide aux personnes dans le besoin en Centrafrique. Cette année, la journée de l'aide humanitaire est célébrée dans le pays autour du slogan « Les civils ne sont pas une cible ». Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Actualité américaine pour terminer. La première dame des États-Unis, Melania Trump, a annoncé lundi qu'elle se rendrait seule en tournée en Afrique cette année, mais sans préciser dans quel pays africain l'amènerait son voyage. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Ce sera mon premier voyage en Afrique et je suis enthousiaste à l'idée de m'instruire sur les questions concernant les enfants sur le continent, tout en m'informant sur sa riche histoire et sa culture, a dit Madame Trump dans un communiqué. La première dame n'a pas donné davantage de précisions mais selon sa directrice de la communication, Stéphanie Grisham, la Maison-Blanche fournira des détails dans les semaines à venir. Melania Trump, qui a accompagné son mari lors de plusieurs voyages, s'est déjà rendue seule au Canada. J'ai hâte de mettre en lumière le travail humanitaire et les projets de développement réussis menés dans plusieurs pays africains, a-t-elle ajouté dans le communiqué. Le président américain Donald Trump ne s'est pas encore rendu en Afrique depuis sa prise de fonction et aurait par le passé dénoncé l'immigration en provenance des pays africains. Une polémique sur les termes employés par le président avait suscité des réactions de colère sur le continent.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.